Sauver le présent, une émission spéciale en partenariat avec Uzbek Erika, Combini News et le quotidien Le Parisien, avec qui France Culture s'associe toute l'année pour proposer chaque mois une émission sur l'environnement, enquête, constat, analyse, décryptage et solutions pour vous informer. Aujourd'hui, les plus jeunes en première ligne, de l'inquiétante pollution de l'air dans les écoles à l'exposition spécifique des enfants aux substances chimiques nocives. Le constat est sombre, mais nous parlerons aussi de la mobilisation des plus jeunes pour la planète.
Être et savoir, Louise Touret.
Attention, urgence environnementale. Et si la question écologique n'était pas seulement quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, mais bien quels enfants allons-nous laisser à la planète? Et c'est bien le sens de sauver le présent. Aujourd'hui, toutes les données convergent pour dresser un tableau inquiétant de la pollution et de la manière dont elle affecte les plus jeunes. Les substances toxiques sont présentes dans les organismes des enfants dès la naissance, comme le montre encore le tout récent rapport de Santé publique France. Nous ferons le point avec le toxicologue André Sicolella. Et puis le Parisien, aujourd'hui en France, et Combini News ont investigué sur les taux de pollution de l'air autour et dans les écoles. Nous détaillerons le contenu de leurs enquêtes dans cette émission. Enfin, si les enfants et les jeunes sont les premières victimes de la pollution, forment-ils une génération plus consciente, engagée, une génération qui sera à même de faire bouger les choses de manière décisive? À l'approche d'une nouvelle grève pour le climat le 20 septembre, nous poserons ces questions à Antoine Soulas, étudiant mobilisé. Philippe Baudouin réalise cette émission, Avril Ventura en est la chargée de production et c'est Valentin Bobinet qui en assure la prise de son. En fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert, c'est avec le réalisateur Cédric Kahn que sera Sophie aujourd'hui. Son nouveau film « Fête de famille » sonde la question de la folie lorsqu'elle se loge au sein de la famille. Une curiosité, une tendresse pour la figure du marginal qui trouve ses racines dans son enfance passée dans une communauté hippie, à la campagne, dans la nature. Et je salue sans plus tarder les invités de cette émission consacrée à être et savoir. André Sicolella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chimiste, toxicologue, enseignant à Sciences Po Paris, président du réseau Environnement Santé et auteur notamment de Toxic Planète, publié au Seuil en 2013. Et puis il y a une édition de poche. Annie Thébaumoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de la santé, directrice de recherche à l'INSERM et autrice notamment de Travailler peut nuire gravement à votre santé et La science asservie, publié tous deux à La Découverte. Antoine Soulas, bonjour.
Bonjour.
J'ai dit, vous êtes étudiant, vous êtes surtout cofondateur du collectif Désobéissance Écolo Paris et l'un des initiateurs des grèves étudiantes pour l'environnement dans la capitale et en région parisienne. Je précise que vous étudiez les maths et la physique. Émilie Torgemène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste environnement au Parisien, aujourd'hui en France. Alors ce mercredi 11 septembre, une grande enquête dans le journal sur la pollution de l'air qui affecte les enfants, y compris bien là où ils sont scolarisés.
Absolument. Alors pour nous, c'est une enquête très importante. C'est une enquête qu'on partage avec vous, France Culture, avec Combini News et avec le magazine Uzbek Erika. Si je peux en dire deux mots, c'est un partenariat exceptionnel pour nous. C'est un drôle d'attelage avec des médias qui ont une ligne éditoriale différente, qui ont une audience différente. Donc on est très contents de pouvoir se mobiliser ensemble. Ben merci Louise. Alors oui, effectivement, dans ce numéro-là, on s'est attaqué à la question de la pollution de l'air et à la pollution de l'air pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la pollution de l'air? Parce que c'est probablement un des scandales sanitaires les plus importants des 20 dernières années. On a des experts et des scientifiques avec nous, ils nous l'expliqueront mieux que je ne peux le faire. Et pourquoi dans la pollution, l'effet de la pollution sur les enfants dans les écoles? Parce qu'on aurait souhaité que dans les crèches, dans les primaires, dans les bahuts de nos enfants, ce soit un sanctuaire. Ça ne l'est pas du tout.
Puisque l'air circule de l'extérieur vers l'intérieur, évidemment, aucune cour de récréation n'est protégée, ni même de salle de classe. Vous parliez de nos partenaires, alors on dira un mot sur Uzbek Erika, mais écoutons un court extrait du reportage de Alan Henry pour Combini News. On va juste entendre les enfants et comment eux, ils parlent de cette pollution.
fois, on ne peut pas faire sport parce que l'air est trop pollué, quand il y a des pics de pollution.
J'ai un peu plus d'asthme, j'ai une crise d'asthme. Ici, ma maman, elle m'a dit que c'était une école très polluée.
Alors, en réalité, Alan de Combini a été faire ce reportage auprès de l'école primaire Sainte-Mary, qui a été identifiée comme l'école où la pollution est la plus importante. C'était au mois d'avril et c'était grâce au travail des associations Respire et Greenpeace. Cette école concentre à l'année des taux de pollution sur les particules fines, sur les oxydes d'azote très importants. Trop important, on ne parle pas des pics, mais du bain ambiant dans lequel baignent nos enfants, dans lequel respirent nos enfants. 85% des établissements qui accueillent des enfants en Île-de-France sont au-dessus des taux de l'OMS.
Donc ce n'est pas que le centre de Paris et ce n'est pas seulement l'Île-de-France. D'ailleurs, ça concerne bien d'autres zones en France. On pense aux vallées alpines, on pense évidemment à d'autres grandes villes. En fait, ça dépend aussi de la manière dont la pollution se déplace. Ça, c'est le vent. Anité Beaumoni, je me tourne vers vous parce qu'à Paris, alors on revient dans le centre de Paris, il y a une autre pollution, c'est celle due à Notre-Dame. C'est une pollution très spécifique au plomb.
Alors tout à fait, 400 tonnes de plomb se sont volatilisés en micropoussière au centre de Paris. 400 tonnes, c'est 4 fois le total des émissions sur une année sur la France entière. Donc c'est absolument énorme. Nous ne comprenons pas. Alors quand je dis nous, c'est des scientifiques, des médecins, des associations, des organisations syndicales qui se structurent en collectif actuellement. Nous ne comprenons pas pourquoi les écoles n'ont pas été immédiatement fermées, les commerces immédiatement avertis du danger et des mesures de dépollution drastiques mises en place avec un confinement du chantier.
On va essayer d'être complètement pédagogue. Ces particules, elles retombent sur le sol, donc partout, y compris dans les cours de récréation. Qu'est-ce qui fait que des enfants sont particulièrement touchés ?
Alors, effectivement, quand des enfants dans la cour de récréation jouent sur des sols pollués, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont au contact, ils ne vont pas se laver les mains chaque fois qu'ils rentrent et sortent d'une cour de récréation. Et donc, les quelques signalements de plombémie qui ont été donnés comme inquiétants témoigne d'une imprégnation de ces enfants par le plomb. Et le métabolisme du plomb dans l'organisme, c'est-à-dire comment le plomb réagit quand il arrive dans l'organisme, il y a une partie du plomb qui est éliminée par voie urinaire, mais une partie du plomb est stockée dans les os. Donc le plomb disparaît du sang. Or, la plombémie, c'est une prise de sang pour voir s'il y a du plomb dedans. Mais si la plombémie est faible, ça ne veut pas dire que le plomb a entièrement quitté l'organisme de l'enfant. Et moi, ma crainte, compte tenu du fait que la mobilisation qu'on a faite n'a véritablement eu d'effet, je dirais, en termes d'information et en termes de mobilisation sanitaire, qu'à partir du mois d'août, c'est que les enfants ont quitté l'école au mois de juillet. Il s'est passé 2 mois avant que des plombémies soient faites. Ces plombémies ne sont plus le reflet de l'intoxication.
Et qui peut continuer donc aujourd'hui dans les écoles du centre de Paris.
Malheureusement, nous avons préconisé très tôt, dès le mois d'avril, une cartographie rigoureuse de la pollution par le plomb, et notamment dans les écoles, les collèges et les lycées. Et c'est seulement à la rentrée de septembre que certains collèges, lycées ou écoles ont été... Le plomb à ce moment-là a été mesuré. Et en fait, le décalage entre l'incendie avec cette énorme pollution de plomb sur Paris et ces mesures très partielles qui sont prises à partir de septembre, ce décalage correspond à une contamination de milliers de personnes, enfants, femmes, femmes enceintes, adultes, à la pollution. Et il faudrait parler aussi, évidemment, des travailleurs, y compris de jeunes travailleurs qui sont sur le chantier, y compris de jeunes nettoyeurs qui sont exposés au plomb actuellement dans les rues de Paris.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux. Et à nouveau, un sifflement pour se dire adieu. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile.
André Cicolella, je rappelle, c'est Réseau Environnement Santé. On a parlé du cas particulier de la pollution due au plomb de Notre-Dame. Il y a d'autres sites en France. On pense à d'anciennes mines d'or qui contaminent des écoles avec de l'arsenic. Est-ce que pour vous, c'est assez symptomatique de la manière dont on traite ces pollutions qui affectent les plus jeunes enfants ?
C'est un problème plus général. Vous évoquez l'asthme avec le lien avec les particules. On a une grande étude suédoise qui est parue il y a quelque temps, qui montre un lien entre les sols en PVC et l'asthme de l'enfant. Une étude, un suivi sur 10 ans de 3200 enfants, donc une très grosse étude. Un lien entre le sol en PVC de la chambre de l'enfant et le sol en PVC de la chambre des parents. Donc, et là, c'est la source, c'est les phtalates qui sont utilisés comme plastifiants. En fait, une source. Alors, vous évoquez la contamination de l'atmosphère des écoles. Voilà, ça, c'est une source, là où il y a souvent des sols en PVC d'ailleurs. Plus de 60% des sols dans ce type d'établissement sont en PVC. Une source dont on ne parle pas. Nous, on a lancé effectivement, dans le cadre du réseau Environnement Santé et de la charte Ville et Territoire sans perturbateurs endocriniens, une campagne avec les élus qui signent la charte, qui est la campagne Zéro Phtalate. Donc, on prélève une mèche de cheveux et on analyse les phtalates des élus volontaires. Et on a des contaminations, la quasi-totalité des élus, donc avec des contaminations qui varient entre 1 et 200. Donc c'est à peu près représentatif certainement de la population en général. Et donc les études montrent effectivement que cette contamination de l'enfant, mais vient aussi de la contamination maternelle. C'est l'enjeu.
Oui, ça commence pas au berceau, mais bien avant.
Même avant d'ailleurs, mais principalement au moment de la formation des organes. Alors le plomb, effectivement, est un perturbateur endocrinien. Il vient s'ajouter à d'autres sources. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les connaissances scientifiques, il y a un bouleversement des connaissances scientifiques qui a été introduit avec cette notion de perturbateur endocrinien il y a une trentaine d'années. Donc on commence à tirer aujourd'hui les conséquences, un peu tardivement d'ailleurs, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça remet en cause le principe sur lequel est fondée largement encore la réglementation, qui est le principe principe de Paracels, la dose fait le poison. Ça n'a aucun sens.
C'est le cocktail qui fait le poison.
Oui, c'est aussi la période. L'exposition pendant la grossesse, même au début de la grossesse, c'est beaucoup plus importante qu'une exposition effectivement à l'âge adulte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences d'une exposition à l'âge adulte. Et donc, l'enjeu, c'est aussi l'effet transgénérationnel. On a des études qui montrent des effets sur 3 générations. Mais, donc, on transmet un héritage toxique aux générations futures. D'où l'urgence de revoir effectivement la façon dont on gère ces problèmes aujourd'hui, en protégeant au maximum cette période sensible de la grossesse et de la petite enfance.
On est de plus en plus informés sur ces pollutions diverses. On pense à l'étude publiée le 3 septembre, celle de Santé publique France. C'est en fait peut-être le début d'un très long travail. C'est ce qu'expliquait Roger Genet, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à Véronique Rébérotte pour France Culture.
Aujourd'hui, on manque de connaissances sur beaucoup des substances qui sont candidats perturbateurs endocriniens. Et donc, il nous faut produire des données scientifiques qui nous permettent d'évaluer ce caractère perturbateur endocrinien, c'est-à-dire, encore une fois, un caractère délétère sur la santé lié à la modification d'une fonction hormonale. On a typiquement, en fait, le bisphénol A, mais on voit bien qu'il a été substitué dans l'industrie par d'autres bisphénols, hein, le S, le M, le P, et qu'il faut absolument qu'on arrive à avoir des données scientifiques permettant d'évaluer toutes ces substances au bon niveau.
Vous avez même des doutes sur leur innocuité. Enfin, ces substituts peuvent être peut-être pires que le produit qui a été montré du doigt.
Potentiellement, si l'évaluation n'est pas faite et si on n'a pas de données, effectivement, on ne peut pas savoir si l'effet est pire ou meilleur que le produit qu'il substitue. Donc c'est important d'avoir une liste qui soit scientifiquement établie.
André Sicolet, là, je voulais vous soumettre ces paroles de Roger Genet, donc le directeur de l'ANSES. D'abord parce que il y a cette idée que on commencerait à savoir des choses, et ensuite parce que c'est par votre action que le bisphénol A a été proscrit de la fabrication des biberons. C'est un perturbateur endocrinien, et c'était aux alentours des années, des années 2008. Moi, j'ai 2009. Des bons repères d'utilisation des biberons dans ma vie, donc en 2009. Et vous avez dit à l'époque, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les preuves scientifiques sur des dizaines d'années qu'il ne faut pas interdire une substance.
Oui, alors c'est cette façon de gérer les problèmes, effectivement, on attend la preuve absolument, ce qu'on appelle la preuve épidémiologique chez l'humain. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Quand on a les données expérimentales sur la souris et sur le rat, c'est tout à fait extrapolable à l'homme. Les effets, notamment, c'était le bisphénol A. On a des données, notamment, qui montrent que vous donnez une dose de bisphénol A, et c'est les doses auxquelles on est exposé. L'étude de Santé publique France nous dit, contamination totale par le bisphénol A. On donne cette dose moyenne à des rates gestantes aujourd'hui. On induit chez les fils, les petits-fils et les petits-fils, infertilité, baisse de la fertilité et baisse de la qualité du sperme. La baisse de la qualité du sperme, actuellement, on a les données depuis 50 ans. Un homme de 30 ans a perdu 2 spermatozoïdes sur 3. Voilà, ça c'est les données sur l'Île-de-France, mais qui sont extrapolables à la France entière, et même au niveau plus général d'ailleurs. Donc, et à ce rythme-là, on arrive à zéro en 2040. Donc il y a de plus en plus de couples qui sont confrontés au problème de l'infertilité. Parce que l'infertilité, elle est masculine, elle est aussi féminine. Voilà. Ces données-là montrent qu'on ne prend pas la mesure du problème, puisque ça continue.
Émilie Turgeman, ça pose quand même des questions aussi journalistiques sur la manière d'informer le public quand on a à la fois des chercheurs qui sont militants, qui prennent fait et cause pour divulguer les connaissances qu'ils estiment nécessaires au public, et puis une certaine timidité, en tout cas c'est perçu comme tel par ces mêmes chercheurs, des administrations publiques et des institutions.
Alors, si je prends l'exemple de la pollution de l'air, puisque c'est le dossier qui nous a occupé.
C'est bien qu'on y revienne.
Alors, la pollution de l'air, c'est par principe invisible. On a malgré tout l'impression qu'un certain nombre d'autorités, et je pointe pas le doigt sur une autorité sanitaire actuelle, ça fait au moins 20 ans que ça dure, ne prennent pas tout à fait la mesure, ou en tout cas s'occupent à ne pas mettre en lumière ces problèmes. Il y a un exemple très simple, les normes pour les particules fines, les normes à ne pas dépasser en moyenne annuelle sont de 20 microgrammes au mètre cube, qu'importe, en France et en Europe, elles sont 150 fois plus importantes. Ce qui nous permet de dire que tout va bien quand l'OMS dirait que tout ne va pas bien. Donc, médiatiquement, C'est compliqué ou pas. Il suffit de dire, selon les normes européennes, tout va bien. Selon les normes de l'OMS, qui sont sérieuses aussi, eh bien, il semble que tout n'aille pas si bien. Et moi, je cite très régulièrement des chercheurs comme ceux que vous invitez, sans me poser de questions. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves et qui sont des scientifiques reconnus. Effectivement, comme vous, Louise, j'essaie d'avoir des réponses des autorités qui en donnent ou pas.
Du côté de l'investigation, est-ce que c'est difficile d'enquêter sur les sujets environnement?
Non, probablement pas plus compliqué que sur d'autres sujets. Par contre, ce qui est très intéressant médiatiquement, et pour le média pour lequel je travaille, qui est un média très grand public, qui est loin d'être un média militant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la couverture de l'environnement explose. Alors moi, je suis ravie, hein, à titre personnel, je suis journaliste en environnement depuis un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de place et je trouve ça formidable. Mais ce qui arrive aux Parisiens aujourd'hui en France arrive y compris à votre antenne. Donc je trouve ça plutôt un mouvement intéressant.
On signale d'ailleurs que chez notre partenaire ouzbek Erika, on s'interroge sur les alternatives à la voiture, à la fois individuelle et collective, avec un long papier de prospective. Ce qui est intéressant dans la manière dont on considère ces problèmes très graves qui affectent, on l'a dit, les enfants, rien ne devrait être plus grave, c'est cette relative surdité, alors des décideurs peut-être, mais aussi de la société. Je voulais vous faire écouter Sébastien Voller, il est neuroscientifique, il a une explication à ce sujet, il a publié un ouvrage qui s'appelle Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Il répondait en juin dernier à Olivia Gesbert dans La Grande Table, évidemment. Il parle donc du fonctionnement du cerveau dominé par le striatum et non le cortex.
Le problème, c'est que cette partie de notre cerveau, ce striatum, est complètement aveugle au futur. C'est-à-dire que on voit que si je vous donne par exemple une somme d'argent de 10 euros, je vous dis soit je vous donne les 10 euros maintenant, soit 15 euros dans un an, à 90%, vous allez prendre les 10 euros maintenant. C'est-à-dire que c'est votre striatum qui va voir les choses qui sont sous votre nez maintenant, mais qui n'arrive pas à prendre en compte ce qui va être dans le futur plus éloigné. Votre cortex le fait. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous vous dites oui, 15 euros sera plus intéressant dans un an, même compte tenu de l'inflation, ok. Mais votre striatum ne le peut pas. Et ça, c'est quelque chose qui a d'abord été étudié chez les enfants à travers une célèbre expérience, l'expérience du marshmallow. Vous pouvez voir sur Internet, qui est très drôle. Vous donnez le choix à un enfant d'avoir soit une sucrerie tout de suite, soit deux s'il attend 5 minutes, et puis il résiste pas. Il mange la sucrerie tout de suite. Et on fait les mêmes expériences avec les adultes, avec de l'argent. Et il ne résiste pas non plus. Et alors le problème, c'est qu'effectivement, on se dit dans 30 ans, on va laisser un monde catastrophique à nos enfants. Mais il faut toujours savoir que c'est seulement notre cortex qui le sait de façon abstraite, mais que émotionnellement et au niveau de notre motivation, ça ne rentre pas. Et toute la question, ça va de savoir comment le faire rentrer.
Annie Thébaumoni, sur cette analyse qui expliquerait aussi une relative indifférence ou une trop grande indifférence de trop de gens dans la société à la question environnementale, la difficulté aussi à changer les comportements et à faire pression sur les acteurs économiques pour qu'ils changent aussi leur gestion de la question environnementale.
Je vais prendre un exemple qui est sans ambiguïté, c'est celui de l'amiante. L'amiante a été interdit parce que c'est un toxique connu depuis très très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps, pratiquement un siècle, par rapport à la connaissance des effets sanitaires de l'amiante? Parce que les premiers concernés ont été les ouvriers, et sont les ouvriers. Et pour la plupart des polluants, c'est le cas. Et moi, ce qui me frappe dans le langage qui est utilisé actuellement, particules fines, ça veut rien dire en quelque sorte, puisque c'est la toxicité intrinsèque de l'amiante, du plomb, du bisphénol, etc., des molécules, qui fait que il y a un problème. Or, cette toxicité, elle est connue. On n'a pas besoin de faire des milliers de victimes. On n'a pas besoin, en d'autres termes, de faire de l'expérimentation humaine pour arrêter d'utiliser des produits toxiques. Et le problème est un problème socio-économique, et les normes sont des compromis socio-économiques. Je suis sociologue, et là-dessus, je suis absolument convaincue que ce qu'on a fait pour l'amiante, ce qu'on a fait pour le bisphénol A, on devrait le faire pour toute une série de produits et sans attendre. Les pesticides, tous les pesticides de synthèse devraient être interdits. Et il n'y a pas de 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres.
Oui, alors ça, c'est une nouvelle norme sur l'épandage des pesticides qui serait interdit seulement à 5 mètres des habitations et des écoles.
C'est absurde, c'est absurde. La toxicité des pesticides, elle est diluée absolument partout actuellement. Donc, la seule mesure politique correcte d'un point de vue de santé publique, et je parle en tant que chercheur en santé publique, la seule mesure correcte serait l'interdiction immédiate, comme on l'a fait pour l'amiante. Et à partir de cette interdiction, un temps de mise en route de cette interdiction, mais qu'on arrête de dire qu'il est légitime, qu'il y a du risque acceptable. Le risque n'est pas acceptable.
Alors, ce n'est pas ce que disait Sébastien Boller, mais je voudrais revenir sur ces propos qu'on a entendus et sur les vôtres avec vous, André Cicolella. Pour dire, voilà, on a un niveau d'information qui est vraiment inquiétant et on a l'impression que la réaction
Je partage pas tout à fait votre point de vue. On a un constat qui a été fait à l'Assemblée générale de l'ONU, hein, des plus hauts niveaux de décision politique, en septembre 2011, qui a été refait en septembre 2018. Nous sommes, le monde entier est confronté à une épidémie mondiale de maladies chroniques. C'est l'OMS qui a préparé ça, qui en a parlé pour la première fois en 2006. Le mot épidémie. Moi, je suis intervenu au groupe Santé Environnement, qui est le groupe où on discute de la politique de santé environnementale en France, en disant, mais bâtissons effectivement le plan national santé environnement à partir du constat de la situation sanitaire. Reprenons les termes de l'OMS. La France a voté. Tous les pays du monde ont voté cette recommandation. Est-ce que vous avez entendu parler de cette recommandation de l'Assemblée générale de l'ONU? Non. Non. La stratégie nationale de santé, et là je vous mets en cause, allez, je n'hésite pas.
Vous regardez Émilie voilà. En même temps.
Mais je vous dis, je suis sûr que vous allez rebondir sur ça. Comment se fait-il qu'on vote une décision à New York en disant il y a une épidémie mondiale de maladies chroniques, on revient en France, on fait une stratégie nationale de santé, on n'emploie pas le mot épidémie? J'ai posé la question, évidemment. Et on m'a répondu, non, on va pas parler d'épidémie parce que ça fait peur aux gens. Attendez, c'est n'importe quoi. S'il y a une situation épidémique, on l'attaque, cette situation. Et la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'on a compris très largement les causes de cette épidémie. Donc on agit. Alors on a toujours l'idée que c'est le problème majeur, c'est les épidémies infectieuses. Alors elles existent, hein. Il ne s'agit pas de les négliger, mais l'essentiel de la mortalité aujourd'hui et de la morbidité, donc des causes de maladies dans le monde, et en France c'est la quasi-totalité, ce sont les maladies chroniques. Et on nous explique que c'est le vieillissement, mais vieillissement partie.
Je suis très têtu, je repose ma question. Si le public est informé d'une certaine manière, tout de même, sur les perturbateurs endocriniens, sur les particules fines, pourquoi les gens continuent-ils de prendre leur voiture, d'acheter une alimentation emballée dans du plastique.
Il y a plusieurs niveaux. Je crois que la prise de conscience. Voyez, le sondage qui a été fait à l'occasion de l'arrêté du maire qui a pris l'interdiction, puis cet arrêté d'interdiction des pesticides, 98% des Français trouvent que c'est bien. Entendez, il y a un consensus très large. Donc la prise de conscience se fait. La prise de conscience de l'épidémie, elle se fait aussi. Tout le monde est confronté. Le cancer aujourd'hui, pour un homme, c'est 2 chances sur 3, au sens statistique du terme, enfin 2 probabilités, de faire un cancer. Vous vous rendez compte? Alors on peut encore faire mieux, les Australiens sont à 3 chances sur 4, donc on peut progresser. On est effectivement un des pays les plus touchés par l'épidémie de cancer, les plus touchés. On est les premiers au monde pour le cancer de la prostate parce qu'on a les Antilles qui sont les premiers au monde, on est 5e au niveau. Voilà, on a des données qui sont là, où est-ce qu'on en parle? Où est le plan cancer? Regardez le plan cancer. Pas un mot sur le lien cancer-environnement. Attendez, c'est les politiques publiques qui doivent aussi se saisir de ça. Les données scientifiques, il faut les traduire en politique publique. Au niveau de la population, les gens sont conscients de ça. Parce qu'ils le vivent.
Et nous, les journalistes, on informe Émilie Torjman.
Alors, j'avais compris l'accusation. qui n'est pas personnelle, hein, que je prends collectivement. Les sujets montent. Oui. Les sujets des épidémies de maladies chroniques montent.
Bon, peut-être. Vous utilisez bien le mot épidémie, là. Bon, voilà.
Je vous remercie pour le compliment.
Le Parisien va faire un gros titre sur l'épidémie mondiale de maladies chroniques. Vous en engagez à faire ça.
Je pense que le Parisien, comme d'autres, vont le faire, l'ont déjà fait, et vont le faire de plus en plus. Pour la pollution de l'air, et je pense que ça va faire plaisir à notre jeune invité, on a, nous, voulu parler des solutions aussi dans ce dossier. Parce que les scientifiques font des constats qui sont connus, que vous répétez, mais les solutions également sont connues. Et cette fois-ci, on a décidé que, certes, la situation de la pollution atmosphérique était terrifiante. En tant que parent, elle pouvait être angoissante vu les impacts sur nos enfants. Mais les solutions existent et on a voulu être très concret, sachant que ce mercredi, avec nous, on porte deux gros acteurs que sont la FCPE, l'association majoritaire de parents d'élèves, et l'association Respire, une association qui travaille sur la qualité de l'air, l'amélioration de la qualité de l'air, qui publie un kit d'action. Donc ce kit d'action est disponible sur le site de ces deux gros acteurs, et c'est un kit d'action qui est très simple. Il y a des actions individuelles faciles, on amène ses enfants à vélo, on évite de passer par les itinéraires les plus pollués, voilà. Mais bon, ça c'est une partie du problème, toute petite partie du problème, mais surtout, ce kit d'action invite à se mobiliser. Et la mobilisation est importante, elle paye dans certaines écoles. On a été voir du côté de Michel Servet, qui est une des écoles pionnières de la pollution, de la prise de conscience de la pollution et qui est à Lyon. La mobilisation paye et rappelle la FCPE, elle payera probablement plus en 2019, qui est une année d'élection municipale. Donc c'est aussi à tous les parents de s'emparer de ces questions pour, de manière très simple, chasser les voitures des abords des écoles.
Et vous parlez de mobilisation, une grève mondiale pour le climat est prévue pour le vendredi 20 septembre. Alors on a tous entendu parler de Greta Thunberg. Il y a aussi une chanteuse, Billie Eilish, elle a 17 ans. Elle est suivie par 37 millions de personnes sur Instagram. Voici ce qu'elle écrit. Des millions de gens dans le monde supplient nos dirigeants de les écouter. Notre Terre se réchauffe à une vitesse inédite. Les calottes glaciaires fondent, les océans montent. On empoisonne la faune et nos forêts brûlent.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Citoyens, nous avons besoin de vous. Le monde se meurt et nous, les jeunes, vos enfants, nous ne voulons pas récupérer une planète minée par les générations précédentes.
Fin 2018, des scientifiques du monde entier ont publié le fameux rapport du GIEC exhortant à l'action. Mais rien n'a changé. Nous polluons toujours plus au nom d'un système économique absurde et la température ne cesse d'augmenter.
La planète court à la catastrophe. Le climat se dérègle, les océans montent et la biodiversité, elle, s'effondre. Des millions de personnes seront et sont déjà touchées. Des guerres éclateront et des populations entières devront fuir les zones où elles ne pourront plus habiter.
Partout dans le monde, des lycéens et des étudiants ont commencé à faire la grève. Travailleurs, chômeurs, retraités, parents et professeurs, nous avons besoin de vous. Toi aussi, entre dans la résistance, car cette leçon est la plus importante de toutes et cette fois, c'est à notre tour de l'enseigner au monde entier.
entre dans la résistance. Voici une partie du clip des jeunes de l'Île-de-France mobilisés pour la grève du climat. C'était le 15 mars dernier, donc nouvelle grève le 20 septembre. Antoine Soulas, vous êtes cofondateur du collectif Désobéissance Écolo Paris. Alors, est-ce que ce registre d'action, grève, médiatisation, est-ce que ça suffit?
Oui, alors, c'est une bonne question. On a commencé à aborder les modes d'action et je vais vraiment rebondir là-dessus. En commençant déjà par prendre un petit peu de recul sur la cause profonde de tous les désastres dont on vient de parler, les désastres de pollution, mais aussi, du coup, on l'a pas évoqué, c'était pas le sujet de l'émission, mais tous les désastres écologiques au sens large, climatiques, écosystèmes, etc. On peut prendre n'importe lequel. À chaque fois, la cause est la même. C'est l'organisation économique capitaliste du monde qui génère ces problèmes. Tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne peut pas avoir une action intelligente contre eux. Donc je rejoins vraiment à 100% les chercheurs qui m'entourent dans le cri d'alerte qu'ils lancent. Par contre, je pense que ça ne suffira absolument pas de se contenter de dire « voici ce que fait le gouvernement, c'est inadmissible de s'indigner ». Ça ne suffira pas non plus d'aller marcher dans la rue en brandissant des slogans. C'est ce qu'on fait depuis des années. En fait, dans les années 60-70, aux États-Unis, il y avait des mobilisations énormes. Tout le monde disait que c'était historique. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer.
En France aussi, il y a eu des mobilisations.
En France, j'allais y venir. Oui, non, mais je gardais la France parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de la France dans cette émission, mais on aurait pu parler, par exemple, de ce qui s'est passé au Japon au moment de Fukushima, où médiatiquement, ça a été le silence total, alors qu'au même moment, une des plus grandes universités du Japon sortait des rapports très sérieux sur le fait qu'il y avait des contaminations extrêmement dangereuses à cause de l'incident de Fukushima. Donc, en France, dès les années 70, on avait une réflexion écologique très très poussée, notamment avec la revue Survivre et Vivre. Tout était déjà là. Et puis, petit à petit, il faut se poser la question de pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi on n'y arrive pas. Petit à petit, le pouvoir économique qui est extrêmement lié avec le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, et c'est la raison pour laquelle toutes les cris d'alerte des chercheurs ou l'incendie de Notre-Dame des Paris n'a pas été médiatisé à la hauteur du problème, parce que les trois pouvoirs que je viens de citer sont intrinsèquement liés dans le système aujourd'hui. Donc marché ne suffira pas. La chanteuse que vous venez de citer, qui est vraiment à nouveau dans la demande face au gouvernement, là encore c'est une stratégie qui ne marchera pas, puisqu'on fait ça depuis des dizaines d'années, je le répète, et ça ne suffit pas. Donc la stratégie qu'on a au mouvement étudiant, c'est pas d'arrêter totalement de marcher, et c'est pas d'abandonner totalement la voie politique, parce que ces deux voies ont des avantages. Mais il faut être conscient aussi des inconvénients, et il faut absolument sortir aujourd'hui de cette idée que notre système démocratique va faire apparaître ce que l'opinion publique pense. L'opinion publique est persuadée à 85% qu'il faut interdire les pesticides, au moins à 150 mètres des habitations, et pourtant je suis prêt à parier que cette interdiction ne va pas avoir lieu avant des années, peut-être même des dizaines d'années. Donc, à cause de ce système de mixité politique-économique qui est en place.
It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touraine.
vous parler de changer de registre d'action, et je reprécise le nom du collectif, Désobéissance Écolo Paris, parce que ça passe par la désobéissance, et on sent une forme de radicalité dans vos propos. C'est ce que vous a appris aussi votre conscience des enjeux environnementaux.
Voilà, c'est ça. Quand on tire la leçon des échecs du passé, on comprend que maintenant, ce qu'il va falloir faire aussi, en plus, c'est paralyser ce système-là, parce que la voie politique est beaucoup trop inerte et que la voie démocratique ne suffira pas à répondre à la gravité du problème. Comme vous disiez, on risque d'avoir des problèmes de fertilité en 2040. Donc, assez vite, pour répondre au problème, il va falloir désobéir à un système. Il y a une citation de Thoreau que j'aime beaucoup, qui disait que quand un gouvernement emprisonne injustement, la place de l'homme juste est en prison. Et ça, c'est une citation qui inspire pas mal de jeunes aujourd'hui. Désobéir et éventuellement saboter des projets qui sont écocides, voire des systèmes économiques qui sont absolument scandaleux.
Le coût de cet engagement, Antoine Soulas, il semble vraiment énorme. Vous dites que vous êtes prêt à aller jusqu'à la prison. Est-ce que vous pensez pouvoir convertir beaucoup de jeunes militants avec cette radicalité ?
Eh ben, beaucoup plus que ce qu'on peut ne le penser, parce que par exemple on a le phénomène vraiment de masse Extinction Rébellion, qui est vraiment une grande association internationale avec des collectifs nationaux et dans toutes les villes, de désobéissance civile de masse, qui revendiquent clairement, en tout cas c'est le cas en France et au Royaume-Uni, qu'ils sont prêts à aller en prison pour défendre la cause écologique.
Je peux me permettre, oui. En Angleterre c'est un mouvement très puissant, en France ils sont encore très peu nombreux.
Oui, alors en France ils sont peu nombreux. Quand je discute avec certains responsables de collectifs locaux, j'entends des chiffres comme une centaine de nouveaux adhérents chaque semaine en France dans les collectifs d'Extinction Rébellion. On est vraiment dans une phase en ce moment de recrutement. Donc, aujourd'hui, la phase de recrutement vers une radicalisation, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un mode d'action qui va tirer la leçon des échecs du passé. Et au mouvement jeune aussi, on est très satisfait de voir qu'on a des débats, on a des accords sur certains points, mais on a un accord unanime sur le fait qu'il faut être profondément anticapitaliste et sur le fait que la désobéissance civile est un mode d'action fondamental.
Quel est l'objectif ? Convaincre une plus large partie de la population de vous suivre, mettre à bas le capitalisme, ce qui semble être un travail tout de même difficile et long. Enfin, il semble bien installé, ce capitalisme, en tout cas dans notre pays. Est-ce que c'est faire changer de comportement à la fois les individus et les collectivités ?
Alors, sur ce dernier point, certainement pas. On va certainement pas parler de responsabilisation de l'individu. C'est exactement ce que la pensée écologique militante aujourd'hui cesse de faire pour des raisons stratégiques, parce que c'est vraiment un tour de force qui a réussi le système économique, qui était responsable des désastres écologiques, qui a réussi à faire porter la faute sur le citoyen. Et aujourd'hui, c'est la faute du pauvre gilet jaune qui a du mal à finir son mois s'il prend la voiture et qu'il a une voiture polluante. Alors qu'en plus, il y a énormément d'études qui montrent qu'en général, l'impact écologique d'une personne en France, par exemple, est proportionnel, ou en tout cas croît avec le revenu de la personne. Mais pourtant, c'est la personne qui est socialement le plus précaire qui va être portée à tort parce qu'elle n'a pas le mode de vie et les derniers gadgets écolo qui en plus sont souvent des scandales écologiques à grand renfort de greenwashing. Voilà. Bon, je m'arrête là-dessus. Mais ce capitalisme, comme vous dites, bien installé, en fait, on n'a pas le choix. La tâche est horriblement difficile, mais la question n'est pas « oh, c'est trop difficile », la question est qu'on n'a pas du tout le choix, et que quand on réfléchit en termes de stratégie, on a plus que ça, en fait. On a vraiment plus que ça à faire, de multiplier tous les modes d'action. Et donc, vous me demandiez quel est vraiment le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, c'est essayer de radicaliser une majeure partie de la population, et c'est ce qui se passe en général en ce moment au mouvement jeune ou dans des mouvements comme Extinction Rébellion. Même Greenpeace est en train de changer vraiment sa ligne.
Hein. Ils ont publié un clip là, sur la grève du 20 septembre.
Oui, donc Greenpeace est en train de changer. On attend encore du changement de la part d'Alternatiba, ENV et les grandes ONG écolo. On attend une convergence avec les Gilets jaunes pour le 21. Alors malheureusement, les Gilets jaunes ont tendu la main aux écolos, les écolos ont répondu timidement, mais c'est en train de se faire. Donc radicalisation des modes d'action, sans perdre évidemment l'opinion publique.
C'est ça que j'allais vous poser comme question, parce que ça peut paraître effrayant. Déjà, du passé faisons table rase, un peu ce que vous dites.
Non, c'est pas alors, du passé faisons table rase.
En tout cas, ça peut paraître un peu effrayant.
Ça peut paraître effrayant, mais alors déjà c'est pas du passé faisons table rase, parce que comme je disais, hein, aux États-Unis par exemple, dans les années 60-70, on avait déjà ce mode d'action qui était préconisé, puis qui ont été peu à peu oubliés. On avait ATTAC aussi, la grande association ATTAC, qui a déjà fait des blocages extrêmement radicaux, par exemple au port du Havre, il me semble, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc c'est pas tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle de plus en plus. Et ce qui est réjouissant, c'est qu'on en parle en général positivement dans les médias. L'idée de la désobéissance civile, en général, en ce moment, c'est un sujet qui apparaît de manière souvent soit neutre, soit améliorative. Et il faut absolument en ce moment que les écologistes gardent cette situation et en profitent. Donc, radicalisation d'une partie de la population, pas forcément de tout le monde, parce que d'autres modes d'action sont possibles, la voie politique n'est pas à négliger. Mais ce qui est important, c'est qu'on reste unis dans la lutte et pas que certaines chapelles se divisent et qu'ensuite on soit extrêmement facilement gérable par le système économique et politique.
En tout cas, nous, ce qu'on voulait faire, c'est informer le public sur ces modes d'action, donc de désobéissance civile, exactement, qui marquent aujourd'hui l'action des jeunes hein, pour l'environnement. Alors, des jeunes, de certains jeunes, parce que c'est pas du tout la majorité de la jeunesse qui est mobilisée pour la cause environnementale. Comment vous l'interprétez, ça, Antoine Soulas? Est-ce que vous vous sentez à la fois mobilisé en tant que jeune, vous avez 22 ans, il y a aussi des lycéens, des collégiens même qui vont manifester, et puis quand même, la majorité des jeunes reste relativement invisible hein, sur ces questions.
Invisible, pas tout à fait, parce que on a eu par exemple le 15 mars une journée de mobilisation internationale vraiment impressionnante. On était 50 000 jeunes à Paris. Paris était la ville la plus mobilisée du monde. Et on avait, 1,7 million, je crois, de jeunes dans si on totalisait toutes les villes du monde entier. C'est vraiment pas invisible, ça c'est clair. Mais par contre, quand on tire un jeune au hasard dans une marche pour l'écologie, et qu'on lui pose quelques questions, en général, on voit que la réflexion n'est pas encore mûre et que la politisation n'est pas encore faite.
On dit que les lycéens sont moins politisés que les étudiants, par exemple.
Mais oui, ça c'est vrai, mais c'est juste une question de temps. Et c'est pas du tout un reproche que je dis, parce que moi, il y a seulement 3 ans à peu près, j'aurais pas tenu le discours que je suis en train de tenir aujourd'hui à l'antenne. Tout simplement parce que j'avais une vision de l'écologie qui est la vision de l'écologie majoritaire qui est passée par le discours médiatique et qui est purement, quasiment, exclusivement un mensonge, que ça aille du développement durable au greenwashing, à la croissance verte. Tout ça, c'est un ramassis de mensonges. Et surtout, on a une vision qui est jamais une vision où on cherche à réfléchir à la cause profonde du problème, à savoir, je répète, l'organisation économique. Cette réflexion, elle prend du temps. C'est pour ça que chez les étudiants, on est peut-être plus politisé. Et c'est pour ça aussi que, pour le 20 septembre, donc notre grande journée de mobilisation du mois de septembre chez les jeunes, on a prévu une marche qui arrive au parc de Bercy, et on a prévu un grand rassemblement au parc de Bercy, vraiment ambitieux par rapport à ce qu'on faisait avant, avec au moins une vingtaine d'ateliers vraiment de réflexion avec des chercheurs ou des intervenants qui vont permettre aux jeunes qui le souhaitent de lancer cette pensée et cette politisation, des intervenants de qualité, une tribune d'expression libre avec une scène et un stand associatif avec des associations bien choisies qui poussent à l'engagement direct.
Antoine Soulas, si vous vous mobilisez, vous, c'est parce que vous avez peur pour le futur de votre génération. C'est parce que vous considérez que c'est le seul combat politique à mener aujourd'hui. À titre personnel, comment vous définiriez cet engagement?
Je dirais la raison profonde pour laquelle je m'engage, c'est des raisons quasiment philosophiques ou spirituelles qui, pour moi, sont infiniment plus importantes que, disons, quelques petits points de croissance à la fin du mois ou s'acheter un téléviseur parce qu'on a bien travaillé. C'est des raisons de connexion profonde avec le vivant, avec la nature. C'est des choses qui me donnent vraiment envie de vivre. Et c'est absolument insupportable pour tous les écologistes de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Le vivant qui est complètement asphyxié, le vivant, donc y compris l'humanité, mais tout le reste de la vie. Donc le débat qu'on a eu aujourd'hui avec les chercheurs montrait vraiment un point précis, les pollutions sur les humains. Mais sur tous les sujets, on a la vie sur Terre qui est en train d'être ravagée par un système économique qui n'a aucun sens et qui d'ailleurs ne fait plus sens souvent chez les jeunes. Et ça, c'est pas seulement chez les jeunes très politisés. On a vraiment énormément de jeunes qui sont pas forcément aujourd'hui très écologistes, qui sont pas forcément impliqués dans les luttes et qui pourtant ressentent aussi cette crise du sens et ce vrai poids de la société en fait.
Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler cette année, tout comme France Culture et ses partenaires pour sauver le présent, Ouzbek Erika, Combini News et Le Parisien aujourd'hui en France le feront. Dans quelques instants, la leçon de choses de Sophie Bobert. Merci beaucoup à mes quatre invités. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Dans cette leçon de choses de Sophie Bobert, le réalisateur Cédric Kahn parle de son enfance marquée par un retour à la nature, une enfance qui a forgé son caractère. Et vous allez l'entendre, il fait le lien entre sa vie et le sujet de son dernier film, Fête de famille.
Probablement, je continue à raconter éternellement la même histoire, mais sous des formes différentes. C'est ça qui est intéressant, finalement, c'est de jouer avec la forme. Non, la chose qui me tenait vraiment à cœur, et c'est le fond du sujet, c'est la place du fou dans une famille. C'est-à-dire, voilà comment une personnalité peut être à la fois crainte, ostracisée, mis au banc et à la fois surprotégée, et comment... Et finalement, c'était la réaction du groupe face à cette folie désignée que je trouvais poignante.
Vous, Cédric Kahn, vous avez vécu une drôle d'enfance, hein, je crois, puisque cette enfance a été scindée en deux parties. À l'âge de 7 ans, vos parents ont décidé de quitter la région parisienne pour s'installer dans la Drôme, dans une communauté hippie. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette nouvelle vie, vous, Cédric Kahn, enfant? Est-ce que vous l'avez vécu comme un déracinement?
Oui, en quelque sorte, mais surtout c'était particulier. Alors ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ans, mais c'est vrai que dans le mouvement de l'après 68, mes parents sont partis vivre en communauté dans la Drôme, et on était les seuls enfants de la communauté, ma sœur et moi, et on était un peu décalés, c'est-à-dire que on nous privait un peu de nos parents, quoi. C'est étrange, quand on a vécu dans une cellule familiale, tout à coup de se retrouver dans une troupe, quoi. Et puis, il y avait plusieurs ruptures, parce qu'on venait de la ville, on arrivait à la campagne, on était considérés comme des Parisiens. Finalement, autour de nous, il n'y avait que des gens issus du cru. Enfin, voilà,
peut-être plus dégourdis que vous, c'est ça?
Ouais, et puis surtout plus de là, quoi. On était éternellement les petits Parisiens dans le regard des gens. En plus, on vivait... nos parents étaient des marginaux. Enfin, voilà, c'était pas aussi habituel que maintenant.
Aux yeux de qui est-ce qu'ils étaient des marginaux, vos parents, Cédric Kahn?
Bah, aux yeux de tout le monde, de tous les gens qui vivent là depuis toujours, avec des vies normales.
Mais ces gens dans cette communauté, ils étaient comme vos parents, c'était des gens qui avaient décidé de rompre avec le système.
Oui, mais surtout il y avait beaucoup d'excentricité. Dans nos regards d'enfants, on n'était pas tellement attachés aux idées, mais on voyait qu'ils avaient des looks et des allures qui ressemblaient pas du tout aux autres parents. Rien que ça, c'était difficile à assumer.
C'est-à-dire qu'ils avaient des dreadlocks et des gilets en peau de mouton, c'est ça?
Ouais, et puis ils avaient pas l'air très propres.
Vous aviez honte, parfois?
On avait honte totalement, on demandait à nos parents de pas nous attendre devant l'école.
Parce que vous alliez à l'école. Hein.
Ah bah oui, non, mais c'était pas, on n'était pas du tout des marginaux dans ce sens-là. Et puis dans le fond, les gens, les 68ards, comme on les appelle, c'était souvent des gens qui avaient fait des études, issus de milieux plus ou moins bourgeois. Donc dans le fond, la convention était absolument respectée.
Mais justement, Cédric Kahn, peut-on dire que cette expérience vécue dans une communauté hippie dans la Drôme lors de votre enfance a pu développer chez vous une sorte d'attachement à la figure du marginal ou du déclassé ?
Je me suis jamais expliqué quelque chose comme ça. Ce que je sais, c'est que j'ai toute ma vie dans la Drôme, j'ai attendu de revenir à Paris. Ça, pour moi, c'était très important. Et que bizarrement, je voulais venir à Paris et faire du cinéma, et que depuis que je fais du cinéma, je ne parle que de la campagne et que de gens qui vivent à la marge, dans des paysages oubliés.
Quel genre d'élève étiez-vous, Cédric Kahn ? On vous imagine aisément à la fois taiseux et un peu révolté.
Non, j'étais pas révolté, je dirais que j'étais un élève plutôt transparent, milieu de tableau. Celui qui se fait pas remarquer, qui travaille le minimum pour qu'il lui arrive rien. Et j'étais plutôt un adolescent solitaire.
Méfiant ?
Ouais, mais j'ai gardé ça. C'est marrant comme on reste l'adolescent qu'on a été. Méfiant, ouais. Et puis, ouais, je vous dis solitaire, c'est-à-dire, dans le fond, allant difficilement vers les autres.
Ouais. Lorsque vous fermez les yeux, Cédric Kahn, hein, quelle image de vous, petit garçon ou jeune adolescent, ressurgit ?
Enrobé et solitaire. J'étais plutôt un adolescent un peu pâteau et grassouillé, et je reste comme ça dans ma tête, en fait. Moi, je pense qu'on... C'est beau, d'ailleurs. Moi, je trouve que j'adore voir l'enfant chez les gens, en fait. Voir toutes les fêlures qu'il y a eu et qu'elles ne se réparent pas ou elles ne se réparent pas si bien.
Et vous pouvez voir en particulier Catherine Deneuve et Vincent McCain dans Fête de famille, le dernier film de Cédric Kahn, sorti le 4 septembre. Ne les laissez pas lire, c'est le thème de notre prochain numéro d'Être et Savoir. Nous parlerons en effet de littérature jeunesse et de censure. C'est le thème d'une exposition qui s'ouvre à la BNF mardi.